Alors, on passe au point, je vais aller au prochain point sur mon ordre du jour. Rapport annuel, Lynn.
Oui, donc, comme dans chaque convention financière qu'on a en lien avec le Fonds Région Ruralité, il faut déposer un rapport d'activité. Donc, celui-ci a été produit par notre agent de vitalisation pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Donc, vous aviez le dépôt du rapport. Donc, ce soir, ce serait que le conseil prend acte de ce dépôt-là du rapport financier annuel au Fonds Région Ruralité, volet 4, entente de vitalisation. Donc, il fait état de l'utilisation des sommes octroyées pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Avez-vous des questions, commentaires sur le rapport qui vous a été soumis?
Est-ce qu'il y a un temps pour dépenser cet argent-là? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à dépenser. Est-ce qu'il y a un temps pour le dépenser?
En fait, c'est une démarche de vitalisation. La première moitié de la somme qui est allouée à la MRC a déjà été versée. Et les municipalités concernées peuvent soumettre des projets. Maintenant, il n'était pas obligé de dépenser tant par année.
OK, il n'y a pas de temps. Là. Il n'y a pas d'argent qu'on la parle.
Non. Et c'est un fonds. Je vous rappelle que c'est un fonds, alors l'argent reste.
Oui, parce qu'il n'y a pas grand temps de dépenser.
Non, tout à fait. C'est ça.
On a perdu du temps à cause de la pandémie, tout ça aussi. Puis la mise en place du comité. Fait que là, on est rendu.
C'est le cas pour l'ensemble des régions qui vivent avec le FRR4 en revitalisation. Dans le contexte, on s'attend à une certaine souplesse.
Si jamais les municipalités ne peuvent pas, ils peuvent nous faire signe, on peut les aider, la dépenser.
En fait, M. Drouin, la question est bonne parce qu'on a pris une résolution à la MRC que la MRC peut être porteur de projet qui va toucher les municipalités en voie de revitalisation et d'autres municipalités. Alors, mais j'ai bien confiance que les municipalités ont des beaux projets.
Pour faire grandir ton étable.
Les municipalités ont des beaux projets. Alors, est-ce que vous avez pris acte? Est-ce qu'il y a une résolution proposée? Il y a une résolution à prendre? Une hache, merci. Alors, 8.4, on a eu en séance de travail la présentation pour l'implication de la MRC pour une édition 2024 du RAID international Témiscamingue. Vous avez la résolution devant vous. Est-ce que j'aurais une proposition, Marco dénommé? Et le montant qui a été discuté en séance privée, 175 000, ça vous va?
Très bien.
Alors, Marco dénommé?
Ouais. Les doubles nombres de jeunes, on pourrait même en mettre un petit peu plus.
Alors, dans le contexte, est-ce que... Oui, Marco, tu as
un commentaire là-dessus, Red. Là.
Oui.
Parce que j'ai parlé, quand on dit que ça attire du monde, j'ai parlé à l'équipe technique de l'équipe finlandaise. Ils viennent de Québec, puis ils ont dit, on savait pas que c'était pour eux-mêmes ou Témiscamingue. C'est sûr qu'on va revenir comme touristes.
Exact.
Là, c'est une équipe, j'ai parlé. J'étais bien content.
Une des équipes.
Ah oui, une des équipes, oui. Ouais.
Alors, tu fais la proposition.
Ah bien sûr.
Ça va pour tout le monde.
Surtout que je veux 25 000 de plus, ma fille va être contente, on va pouvoir le refaire.
Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Alors, 175 000, c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. On va passer donc au service d'aménagement et de développement du territoire. La parole est à Daniel. Daniel, pour le plan d'action du gouvernement sur le logement.
Ah ben, vous savez que jusqu'en 2026, on est dans une période intérimaire, c'est-à-dire que si votre municipalité, si votre inspecteur municipal reçoit une demande de permis de démolition, si c'est pour un bâtiment d'avant 1940, il doit l'envoyer au ministère de la Culture pour que le ministère de la Culture l'étudie pour voir s'il y a un potentiel. La loi donne 80 jours au ministère de la Culture pour étudier le cas. On a eu un cas à Laniel. Le comité municipal de Laniel a reçu une demande de démolition le 24 juillet. Ça a été envoyé au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture n'a pas trouvé de raison de le classer le 24 août. Mais le ministère de la Culture, la loi ne lui permet pas de décourter le délai une fois qu'il a fini son étude. Le promoteur de logement, justement, de développement domiciliaire, ne peut pas commencer son projet avant le 24 octobre parce que la loi ne permet pas de décourter le délai, même si le ministère de la Culture a étudié le cas puis il a jugé qu'il n'y avait pas de potentiel pour
plein de fêtes.
D'accord. un projet de résolution pour demander au ministère de changer la loi et de dire qu'une fois que le ministère de la Culture finit son étude, ben, le ministère pourrait mettre le permis, le promoteur pourrait commencer son projet.
Tu dis que je suis en accord.
Alors, Luc...
Mettez une année, là.
Est-ce que vous avez des questions pour Daniel sur cet élément-là? Sinon, je recevrai une proposition, Richard Robert.
J'ai pas de questions, mais ça ressemble à CPTAC.
Ouais, c'est ça.
Ben moi, quand CPTAC a rendu sa décision, la personne peut faire son projet. Et là, il ne passera rien avant le 24 octobre. Le promoteur ne peut pas commencer.
Le délai n'est pas fini.
Il aurait dû rendre la réponse en
même temps. Prochain.
Alors, on va faire juste une réunion en même temps. Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a été dûment proposé? C'est correct?
Oui.
La résolution sera acheminée au ministre de la Culture et au député Daniel Bernard.
Ça va, je sais pas.
Point 9.2, Lynn. Assujettissement des lots, les numéros que vous avez, de la circonscription foncière de Témiscamingue au droit de préemption.
Oui, donc, si vous vous rappelez, on a fait le même exercice avec des lots qui étaient autour du centre de valorisation. Donc, en réalité, c'est d'assujettir des lots pour se garder un droit de regard que s'il y avait une transaction, bien que la MRC puisse manifester si elle a un intérêt à acquérir ces lots-là. Donc, vous avez des cartes. Je vais me tourner un petit peu vers Daniel parce qu'il connaît mieux le territoire que moi. Donc, vous avez au Pemmican Nord, parce que c'est des lots aussi qui sont...
adjacents ou très, très près du parc au Pemmican.
Donc, entre autres, là...
des lots d'intérêt pour pouvoir éventuellement grandir le parc.
Oui, c'est ça. Exactement.
5200,
Lynn,
c'est dans le coin,
on
est
bien chez
Topping, là.
Oui,
c'est
chez
Topping.
C'est
tout à fait là.
C'est ça.
C'est là.
Il y a une propriété actuellement en vente, là.
J'ai aussi que les lots vont comme une négociation immédiatée, justement, avec lui par rapport au chemin. La certitude que là...
En fait, le chemin appartient à la MRC et on a refusé de le vendre pour permettre que l'accès qui est au lac et qui est à la rivière reste accessible à l'ensemble de la population. C'est ça. Exact.
Bon, Daniel?
Martin, il y a plusieurs résidents.
Oui, mais le projet concerne un chalet, celui qui est plus près du parc, qui est évalué à 15 000 ou 20 000 $.
Ouais.
Alors, si le parc a un intérêt, un jour, pourrait grandir, puis s'il y a une transaction, ben.
Ouais.
C'est que le parc ne peut pas faire une préemption, c'est le monde municipal qui peut. Et l'objectif pour nous, c'est le parc. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Daniel sur cette demande-là? Je rappelle qu'un droit de préemption, ça ne nous donne pas le droit de négocier. C'est que si le terrain est à vendre ou prix fixé par l'acheteur, on a le droit de dire qu'on va l'acheter en priorité. Le vendeur ne perd absolument rien. Alors, c'est proposé, Vincent, ça marche?
Ça ne peut pas créer une enchère, ça?
Puisqu'on n'intervient pas, nous, on fait juste dire, si au moment où il y aurait éventuellement une mise en vente puis qu'il y a une entente entre un vendeur et un acheteur, nous, on a le droit de dire on l'achète à ce prix-là. On le prend à ce prix-là. Tu penses qu'il pourrait y avoir sur enchère?
Je ne sais pas.
Nous, on ne l'achète pas, c'est l'acheteur qui est obligé de l'acheter au prix qui a été fixé. Nous, on ne participe pas à la discussion.
Ils arrêtent des
prix.
Oui, c'est sûr.
Ben, on va poser la question.
En fait, la procédure, c'est que lorsque le vendeur va recevoir une promesse d'achat, il doit la notifier à la MRC, accompagnée de tous les documents qui justifient en fait ce prix-là. Donc... c'est une promesse qui est faite par un courtier ou entre les deux. Donc, dans les 15 jours, la MRC va prendre une décision. Si tu fais une promesse d'acheter, tu es obligé d'acheter, sinon il y a une action au tribunal qui est en possession de titre.
Donc, c'est une promesse d'achat.
Il ne peut pas avoir un enjeu là-dessus.
Il y aura un acheteur qui aura vraiment voulu payer un prix ce qui limite la, ce dont tu parlais, la surenchère. Ça va pour tout le monde? C'est correct? Alors, dernière information, tirage au sort de 6 grands terrains de villégiature dans le village de Laniel et Boomcamp.
Côté sud aussi dans son plan.
Oui, il y a deux côtés sud.
Le côté nord, côté sud, au Bélican.
Daniel, tantôt. Oui.
OK.
Le petit chalet.
Il y a un petit chalet.
Merci.
Alors, Daniel, les camps?
Ben, c'est juste pour dire que si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir aujourd'hui ou demain dans la boîte, dans votre boîte à mal, puis pour tous les résidents du Témiscamingue, la publicité concernant 5 terrains qui sont à offrir à Laniel, un à Témiscamingue. À Laniel, c'est des terrains qui sont évalués à 20 000 $. Les gens peuvent les avoir pour un loyer de 300 $ par année. À Témiscamingue, il est évalué à 90 000 $, puis les gens peuvent pour 1700 pièces l'avoir. Alors, donc jusqu'au 29 octobre pour signifier leur intérêt.
1 500 $ par année.
C'est un arriéré taxe assez.
Celui de Témiscamingue, il est offert aussi à tout le monde?
Oui.
Dans cher?
Public.
Puis il faut quand même.
Mais c'est pour ça, Luc, si tu te souviens, ouais, on l'a diffusé dans toutes les boîtes postales parce qu'on voulait que les gens de la région aient ouais, cette opportunité-là.
Il faut que, comme c'est là, à la ville de Témiscamingue, un montant de 2 600 $, ça veut dire qu'il y a un arriéré en taxes.
Non, ça c'est le.
Oui, il y a des taxes impayées, municipales et scolaires, oui.
Donc, si la personne paye les taxes, le terrain, il appartient pour un an.
Non, c'est une location.
OK.
Mais si tu ne seras jamais propriétaire.
Les gens peuvent l'hypothéquer quand même. Là. La caisse ou la banque va l'accepter en hypothèque.
Parce que la location est à long terme.
Oui.
Bon. Alors, c'était une information. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parfait. On va passer à la gestion des matières résiduelles. La parole est à Cathy, rapport d'activité.
Rien de spécifique à mentionner pour le rapport d'activité, à moins que vous ayez des questions.
Question pour Cathy.
Oui, une petite question. Oui? Au niveau du compostage, on voit qu'il y a quand même une baisse au niveau du tonnage dans les derniers mois. Est-ce que c'est à cause des municipalités qui font une collecte différente ou...
Honnêtement, je vais être plus en mesure de le dire à la fin de l'année, okay, voir si vraiment il y a une différence avec l'année 2022, parce que c'est sûr que oui, là, on voit, mettons, mai, juin, juillet, c'était moins élevé que l'année 2022, mais là, en juillet, en août, ça fait l'inverse. Fait que des fois, d'un mois à l'autre, c'est différent en fonction là, des températures, de toutes sortes de choses qui font en sorte que les gens vont mettre plus de compost que d'autres mois, mais c'est plus à la fin de l'année qu'on voit s'il y a vraiment un impact là, sur l'année complète.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cathy? Alors, on passe au deuxième point, Cathy, l'adoption du règlement qui modifie le règlement relatif à la collecte et le transport des matières recyclables, des déchets et des matières compostables.
En fait, le mois dernier, vous aviez passé un avis de motion pour adopter le règlement. En fait, le règlement, c'était surtout pour retirer certains articles qui relevaient plus des municipalités. Donc, aujourd'hui, ce serait vraiment pour adopter le règlement 229-09-2023 qui concerne la collecte et le transport des matières résiduelles.
Et dans l'énoncé du règlement, il n'y a pas eu de commentaires, c'est ce que je comprends? Il n'a pas reçu de commentaires?
Non.
Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Sinon, je recevrai une proposition pour Pierre Gingras. Merci. Ça va pour tout le monde? Parfait. Autorisation pour de nouveaux budgets pour la vidange du bassin de Lixivia. Cathy.
Oui, bien en fait, c'est suite à la lettre d'avertissement qu'on a eue d'Environnement Canada, là, comme quoi qu'il pourrait y avoir des rejets de substances nocives provenant de notre bassin de Lixivia. Donc, on doit s'assurer que ça ne déborde plus. Ça serait en fait le cas, j'ai recommandé d'augmenter le montant, parce qu'on avait déjà autorisé un certain montant. On a commencé à le faire vider, justement, mais c'était juste au cas où qu'on n'aurait pas assez. Le premier budget, bien, ça serait de rajouter, en fait, un budget supplémentaire de 50 000 $ pour vider le bassin de Lixivia.
Avez-vous des questions pour Cathy sur le point? Alors, ça va, Norm? Merci.
Juste un commentaire, bon.
Oui?
Il faut s'assurer que ça n'arrive plus. Donc, peut-être vraiment falloir changer la méthode puis éviter d'avoir du lexivio.
Est-ce qu'il y a qui se penche là-dessus?
Oui, oui.
Oui, c'est ça. Parfait, merci.
La table au courant qu'on travaille là-dessus pour
éviter... Que ça n'arrive plus jamais.
Pourquoi ça arrive? Parce que le ministère va nous rentrer dedans, puis trouve les amendes assez salées, moi.
Ils sont pas gentils. Ben, ça va pour tout le monde. André?
Ben, beau, tu fais partie du comité, mais quand tu es pogné avec le ministère de l'Environnement, là, il t'oblige de ramasser. S'il ramassait ça, ici, ça coule un peu, ben là, il veut t'assassiner. Je veux dire, t'es pogné, t'es dans un étau avec ça, là. Le compost, là, comme c'est là, c'est un nostifié de problème.
Pendant ce temps, il y a des MRC qui n'ont même pas de compost encore, quand même, pour collecte.
Au Québec, il y a actuellement 17 MRC qui compostent.
Sauf que qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Ceux qui compostent ont plus de troubles présentement que la loi qui les obligeait à composter que les autres qui ne compostent pas. Ils sont pas en amende parce qu'ils ne compostent pas. Nous, on les correcte, mais on se fait talonner tout le temps, puis on fait des affaires correctes. C'est ça qui est désolant, là.
Alors, aux personnes concernées, on préviendra notre député de la question, mais effectivement, c'est la façon dont fonctionne le ministère de l'Environnement.
Mais faut quand même s'entendre, là. C'est l'autre ministère de l'Environnement, c'est pas celui-là. Là.
Fédéral.
C'est le fédéral.
Fédéral. Oui, j'avais compris. Mais on a deux députés aussi, hein? On
est aussi au fédéral. C'est deux, un et l'autre.
C'est ça. Merci beaucoup.
Ça fait 70 000, là, parce que l'autre fois, on a mis 20 000.
C'est fait.
On a dit 70 000 pour charrier de l'eau.
Charrier de
l'eau. Dans la fosse à Verne, qu'eux autres, ils vont vidanger.
Dans le même lac.
Mais non, mais commande, là.
C'est ça.
C'est ça.
C'est vrai, ça.
En tout cas, c'est pas des milliards de litres comme à Québec. Cela dit, nous, on va faire les choses correctement. Je vous rappelle que tout ce que vous dites est enregistré.
On s'en fout.
Okay. Rien qu'à ne pas le faire écouter.
Et ceux qui l'écoutent, ils ont juste à être d'accord avec nous autres.
Ouais. Ah là là. Oui, il y a un enjeu avec le ministère de l'Environnement, clairement. Alors, ça va pour le Lixivia. On passe à l'acquisition d'un système roll-off pour le camion numéro 7. Oui? C'est Norm Young qui a proposé.
En fait, c'est que notre camion roll-off actuel, il y a plus de 16 ans, il date quand même de 2007, puis le système roll-off qui est dessus, il est encore plus vieux. Donc, il est vraiment dû être changé, puis on a besoin d'un roll-off régulièrement, bien, en fait, à toutes les semaines pour vider les conteneurs qu'on a sur notre site pour les mettre soit avec le bois ou dans notre centre de transfert. On vide aussi les conteneurs des TNO, donc Béarn, Laniel, puis Belle-Terre. Puis la benne aussi du camion numéro 7, là, on les nomme par numéro, là, mais en tout cas, la benne, elle aussi date de 2007, donc il fallait aussi changer la benne. Donc tant qu'à changer la benne, on se dit, on va garder le camion numéro 7, mais on va mettre un système de roll-off dessus. Donc au lieu d'acheter un camion au complet, on va conserver notre camion actuel numéro 7, mais on va mettre un système roll-off dessus. Donc on a demandé une soumission à Durabac. Puis le coût pour un système roll-off neuf est de 66 248 avant taxe. Donc, le CAGE, en fait, du 8 septembre dernier, a recommandé d'acquérir un système roll-off pour le camion numéro 7 auprès du RABAC au coût de 76 169 taxes incluses.
Question commentaire. Le camion va-tu toffer le nouveau système roll-off? C'était ça ta question, Roger?
Non.
Non? Vas-y. Tu avais une question? Non? OK, excuse-moi.
J'ai juste souri. Je me suis dit, il y a quelques années, tu n'avais pas qu'avec, là, tu as juste le roll-off.
Alors, est-ce que, s'il n'y a pas de questions, commentaires, est-ce qu'il y a un proposeur? Bruno, merci. Ça va pour tout le monde? Alors, on va passer au point 10.5. Contrat pour le nettoyage de la structure, le remplacement de la toile et le déménagement du mini-dôme.
En fait, le point est annulé parce qu'on n'a pas reçu de soumission. On était deux fois en appel d'offres. On n'a pas reçu aucune soumission dans les deux appels d'offres. Donc là, on est en regardé avec les assurances, c'est quoi nos options possibles, vu qu'on a, c'est ça, deux appels d'offres sans dépôt de soumission. Fait qu'on est à, à regarder les options parce qu'on les a mentionné que ça nous prenait une toile avant l'hiver. Puis ça commence à évoluer pas mal parce que l'hiver est demain. Donc, maintenant, je peux en dire que c'est très, très vite.
C'est ça. C'est
ça. D'accord. Merci. Merci de l'information. Alors, point 11 maintenant. Adhésion, sécurité publique. Adhésion au programme des cadets de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. On a été contacté par le responsable de poste par intérim, M. Hugo Arguin, pour savoir connaître l'intérêt de la MRC à renouveler le programme des cadets. Vous savez que ça fait quatre ans qu'on a le programme des cadets et que les commentaires et l'évaluation qu'on en a faite, c'est très satisfaisant. On a demandé ce serait quoi les modalités pour l'année prochaine et c'était pas encore fixé, mais ils voulaient savoir rapidement la position de la MRC pour le programme. Alors, on vous demande si oui ou non, on poursuit avec le programme des cadets et si oui, jusqu'à combien la MRC, on serait prêt à soutenir pour un montant, le montant maximal qu'on serait prêt à soutenir pour s'assurer de la présence des cadets. En 2023, la somme qu'on avait allouée, c'était 12 500 $. Vous seriez prêt à ce qu'on se dise que jusqu'à un montant de 15 000 $, on est prêt à adhérer au programme des cadets? Si plus que ça, soit on n'y va pas, soit on revient devant le conseil. Oui, Roger?
Est-ce qu'on a un rapport d'activité, ce qu'ils font dans la dernière année?
Ils ont soumis un rapport qui doit être déposé au CSP, qui sera déposé aussi. Habituellement, c'est au début de l'année qu'on renouvelle notre entente pour le programme des cadets. Là, ils nous demandent une résolution d'intention rapidement. C'est pour cette raison-là qu'on vient voir. Mais le rapport devrait être soumis au CSP et ensuite partagé avec l'ensemble du conseil. Faut juste mentionner.
Le maximal, ça ne veut pas dire qu'on se rend jusque-là.
C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on se rend jusque-là. L'autre, pour finir la réponse à Roger, ils nous ont rencontrés quand même, les cadets, à chaque année, ils viennent nous rencontrer. Lynn et moi, on est rencontrés avec les cadets. Cette année, c'était deux cadets. Puis, ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait certains constats. C'est d'ailleurs avec les cadets qu'on avait parlé d'itinérance en 2022. Fait que ils nous rencontrent à chaque année de toute façon avant le dépôt du rapport, avant qu'ils finissent leur saison.
Ce serait intéressant qu'ils soient pas plus présent, mais qu'on puisse plus les voir, constater leur présence un petit peu partout. C'est intéressant. Qu'on intègre une espèce de plan de visibilité là, plus sur le territoire, qu'on les voit, qu'on ait des activités dans lesquelles on pourrait s'assurer que nos gens les voient.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'ils ont fait le tour des municipalités puis ils ont fait le tour des écoles aussi, notamment avec les jeunes pour sécurité vélo, pour aussi le bal des finissants. Il y avait une activité où ils étaient présents avec la Sûreté du Québec. Ils ont plusieurs activités, mais effectivement, de façon récurrente dans tous les milieux. Ils étaient dans toutes les grandes activités. Là.
Même les
événements.
Je pense à votre festival, là, le festival.
Ils sont là dans tous les événements.
Ouais. Je les ai vus tout l'été.
C'est juste toi qui les as pas vus, Roger.
C'est ça que le voit, je sors pas.
Et plus sérieusement, ils ont fait le tour des municipalités, ils ont fait le tour des écoles, ils ont fait le tour, même les résidences pour personnes aînées, ils sont allés prévenir la fraude auprès des personnes aînées. Ils ont fait quand même beaucoup de choses, là. Ils ont un rapport, ils ont été assez actifs sur le territoire cette année.
Il reste que c'est un des meilleurs programmes qu'on n'a pas embarqué dedans, à mon avis. Puis je pense qu'à 15 000, avec le coût de la vie, comment ça va remonter, si on se réfère à tout ce qu'on leur a dit tantôt, au moins eux autres ne sont pas quadruples, ils sont juste une petite pincée de plus. Tu revenais dessus, là, moi? Oh, oui.
On est redondant. Alors, est-ce que vous êtes prêt à adhérer au programme des cadets pour l'année 2024 avec un maximum de 20 000, t'en fais la proposition? On dit bien un maximum de 15 000. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'aux 15 000. Alors, merci pour la résolution. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Deuxième point, plan de lutte contre l'intimidation des élus. Vous avez dans votre documentation, c'est le pli élu qui appelle. En fait, on nous a partagé le dépliant. C'est, les élus sont soumis, sont sujets, sont victimes d'intimidation et il n'y a aucune intimidation qui est tolérable. Plus encore quand ça concerne des activités ou des responsabilités publiques comme celle d'un élu municipal. Alors, on vous a mis en copie le dépliant qui explique qu'est-ce que c'est un acte d'intimidation et de violence et comment vous devez agir si vous êtes victime d'intimidation ou de violence à l'endroit des élus et pourquoi aussi c'est important de le faire. Ne pas penser que ça va passer tout seul et ne pas penser que c'est pas grave. Parce que si on peut intimider un élu, on peut intimider plein d'autres personnes. Et on peut intimider, ça peut être une escalade, l'intimidation. On peut commencer par de petits gestes, puis finir par des gestes très importants. Je vous rappelle aussi qu'il y a des élus et des employés municipaux qui ont été attaqués, battus et assassinés. Alors, dans le contexte, chaque petit geste doit être dénoncé. Ne laissez rien passer. Et on vous donne le dépliant pour le faire, pour bien le faire. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires là-dessus? Je rappelle, chaque geste ne doit pas être... on ne doit pas laisser passer les gestes d'intimidation.